Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Il ne faut rien de mal, ai-je dit. Je suis sûr que l'autre va le mener quelque part. Mathieu hausse ses épaules et lui demande pourquoi faire. Je ne sais pas. Allez, viens. Ils ont de l'avance, on risque de les perdre. Ils se mettent en route. Les deux enfants semblent rire et s'entendent. Ils s'entendent même très bien. Mathieu lui dit, a trouvé un copain de son âge. Et je lui dis, tu trouves normal qu'il ait accosté comme ça. Et je lui dis, Mathieu lui dit, c'est des jeunes. Et il continue à suivre les enfants. Mathieu se dit que lorsqu'il verra qu'ils ne font rien de mal, ici il sera tranquille. Il longe les quais. Puis un moment traverse. Deux jeunes gens traversent aussi et continuent à suivre les enfants. Mathieu dit, mais qu'est-ce que vont dire nos familles si on rentre tard? Et il dit, nous leur expliquons, allez, viens.
Les enfants vont dans des rues de plus en plus populaires, étroites et tristes. Et il dit, ça sent le coupe-gorge. Il y a de moins en moins de passants dans les rues. Et ces passants ont des allures qui font frémir. Ils sont seuls, sales, maigres, le visage. Ridés, maigres. Ça vous donne le frisson. Les rues sont de plus en plus mauvais état, de plus en plus mauvais état. Pavés, pleins de détritus, de linge aux fenêtres, immeubles lépreux, c'est dégoûtant à voir et à sentir. Les deux petits jeunes gens continuent à marcher. Il y a de moins en moins de maisons. La chaussée est de plus en plus caillouteuse. Apparaît sur le chemin des rails. Il continue à marcher en suivant les rails. Il y a de moins en moins de maisons. Les bas-côtés montent. Des herbes apparaissent sur les côtés. Ça devient un chemin caillouteux avec de l'herbe et des rails. On y voit de moins en moins clair. Mathieu dit, faudrait peut-être s'en retourner, et il dit, on va voir où il le mène. Mathieu demande,
Mais comment on veut faire pour s'en retourner? Il n'y a pas de lumière. Et si lui dit, il suffit, c'est de suivre le long de la voie ferrée, et il continue. Presque nuit noire. Les enfants marchent d'un bon pas. Il fait de plus en plus sombre. C'est vraiment la campagne. Les bas-côtés sont de l'herbe folle et des arbustes. Mathieu demande. Nous, est-il dit, je ne sais pas, pas bien loin de Paris. Mathieu lui dit, tu vas voir ma mère. On lui expliquera. Il marche encore pendant une demi-heure. Il n'y a plus de rail et le chemin est plein d'herbes folles, même assez hautes. Au loin, ils voient les deux enfants qui sont arrêtés. Il y a comme une lumière. Alexis dit, ils ont dû arriver, allons voir. Ils y vont. Et ils voient dans un renfoncement du bas-côté, à gauche, un muret qui entoure une propriété, qui a une cour, une grande cour, et au fond, une grande maison de 3 étages, sans âge, mais qui doit être du début du 20e ou fin 19e. Il y a un grand portail qui accède à la propriété. Le portail est rouillé. Elle s'est dit, ils sont entrés là. Mathieu lui dit, eh bien, ils ont trouvé un endroit pour dormir. Elle s'est dit, qu'est-ce que ça peut bien être cette maison? Il voit le bouton d'une sonnette. Il appuie. Mathieu lui dit, tu es fou! La sonnette a retenti. La lumière qui est au-dessus de la porte de la maison s'éclaire. La porte qui s'ouvre, en somme, un homme en robe de chambre, bordeaux, en laine et en charentaise. Il est grand, mince, cheveux blancs. Reste au devant de la maison et demande, « Qu'est-ce que c'est ?» Si lui dit, « Je veux savoir ce que c'est que cette maison. » Monsieur lui dit, « Vous me réveillez pour ça? Vous êtes fou ?» Écrit, les chiens! Les chiens! Et sort de derrière la maison d'énormes chiens loups, prêts à mordre. Ils courent vers l'entrée de la maison et sautent sur le verre contre le portail pour essayer de mordre les garçons qui se retirent en vitesse. Ils se sauvent en vitesse.
La blanche a peur.
Mathieu lui dit, tu vois, il n'y avait rien à voir.
Et je lui dis,
si, il y avait sûrement à voir. Il y a du louche, hein, voyant les chiens. C'est parce qu'il n'a pas voulu qu'on me voie.
Mathieu lui dit, de toute façon, on n'a rien vu. Partons.
Et il s'en retourne. Et s'il lui dit,
je suis sûr que le petit est en danger.
Mathieu lui dit, on ne peut rien pour lui.
Et il marche.
La route est longue. Et c'est dans la nuit.
Plus dangereux, c'est lorsqu'il retrouve les rues qui sont lépreuses, sales. On trouve des gens à l'aspect louche, ambigu. Ça donne froid au dos.
Lorsqu'ils arrivent, ils sont épuisés. Mathieu, avec Alexis, va chôner chez sa mère. La porte s'est ouverte, c'est elle. Les fait entrer. Ferme la porte et leur demande, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Mathieu lui dit, on a suivi un enfant.
Et lui dit, tu as vu l'heure qu'il est ?
Il lui dit, non.
Elle lui dit, 22h30. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Mathieu lui dit, on a suivi un gosse.
Elle lui fait, et pourquoi ?
Il lui dit, parce que on voulait savoir ce qui lui arrivait, si allait lui arriver quelque chose.
Il fait, vous le connaissiez cet enfant ?
Il lui dit non.
Il lui fait, et alors ?
Il lui dit, c'est comme ça ? Demande-le à Alexis.
Alexis, explique à la mère de Mathieu.
Elle lui dit, alors, tu vois un enfant dans la rue ?
Et tu veux l'aider ?
Mais des enfants comme ça,
il y en a des milliers !
Hélas !
Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ?
Et toi, qu'est-ce que tu peux faire ?
S'il lui dit, celui-là, on aurait peut-être pu faire quelque chose pour lui.
Elle lui dit, mais il est peut-être bien où il est.
Et s'il lui dit, ça m'étonnerait, ça ressemble à une prison.
Elle lui dit,
eh bien, c'est bien triste, mais on n'y peut rien.
Elle regarde son civis, qui semble fatigué, et dit à Alexis,
je crois qu'il est temps d'aller se coucher.
Et s'il lui dit, oui, bien sûr, j'ai bien l'intention d'y retourner.
Elle lui dit, tu verras avec ton père, bonne nuit.
Et s'il lui dit, bonne nuit.
Et il sort de l'appartement. Il monte au grenier. Là, il raconte sur son père qui lui dit,
Il ne faut plus y retourner. C'est dangereux. Et il lui dit, et le petit lui répond, on n'y peut rien. On ne peut rien pour lui. Absolument rien. Dans la nuit, Alexis pense constamment à Olivier. Il aimerait bien l'aider. Le lendemain, il va sonner chez la mère de Mathieu pour le prendre pour aller au cours. Elle lui a ouvert. Bonjour, bonjour. Il entre, elle ferme la porte. Elle lui dit, Mathieu est fatigué. Qu'est-ce qu'il a? Elle lui dit, c'est peut-être la promenade qui l'a fatigué. Elle est triste. Il demande, il est au lit? Mathieu apparaît et dit, non, ce n'est rien. Ce n'est rien ce que j'ai. Elle lui demande, tu vas au cours? Il lui dit, oui, bien sûr. Sa mère lui dit, tu es sûr que tu es bien? Oui, ça va. Il embrasse sa mère. Et les deux garçons sortent de l'appartement. Et ils quittent l'allée. Tout d'un coup, Mathieu se sent faible. Il s'abaisse au mur. Alexis le voit. Ça ne va pas? Je suis fatigué d'un coup. Tu veux rentrer? Oui, je crois que c'est mieux. Je sommeille. Je sommeille. Je ne tiens plus sur mes jambes. Alexis le maintient à l'épaule et ils entrent dans l'allée. Il est tout pâle, se sent là, là. Alexis lui fait monter les escaliers, tout doucement. Il lui demande, ça va? Oui. Qu'est-ce qui te prend? Rien. La fatigue. Je dois. Toi, il faut que je dorme. Il monte à l'étage. Sa mère l'a rouvert. Que se passe-t-il? Elle lui dit, il n'est pas bien. Entrez. Elle prend à l'épaule son fils et lui demande, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, rien. Sommeil. Sommeil, et dit Alexis, allons le coucher. Et il le mène à la chambre. Le fait asseoir sur le rebord du lit et le déshabille. Tu se sens là, là. Puis fois déshabillé, elle le met sous les draps. Elle lui demande, dis-moi ce que tu as. Il lui dit, j'ai sommeil. Et il ferme les yeux. Et il le touche, lui touche le front et dit, tu vas avoir de la fièvre, il faut faire venir le médecin.
Va chercher celui qui est 2 maisons plus loin. Il paraît qu'il est efficace. Il se demande, vous croyez qu'il a quoi? Elle dit, je ne sais pas, fais vite. Elle sort de la maison en vitesse, l'appartement en vitesse. De l'immeuble. Il court dans la rue. Il va 2 rues plus loin. Et là, c'est une maison de 4 étages qui ressemble aux autres. Il entre dans l'allée. Elle est sombre. Il regarde aux boîtes aux lettres, dépareillé. Il voit que le docteur est au 2e étage. Vite, il monte jusqu'au 2e étage. Arrivé au 2e étage, il sonne à la porte de droite. C'est marqué la plaque du médecin. La porte est ouverte. C'est une femme, maigre, cheveux blancs en chignon, yeux bleus, robe noire. Elle demande, oui? Il lui dit, bonjour madame, c'est pour le médecin, pour qu'il aille voir un malade. Elle lui dit, on demande toujours à ce que le médecin aille voir un malade. Entrez. Il entre. Elle ferme la porte. C'est sombre, ça sent l'éther. Elle lui dit, venez avec moi. Il ouvre une porte. Il fait entrer. C'est un petit bureau dans une pièce sans fenêtre. Elle lui dit, médecin est en consultation. Vous allez me donner l'adresse et le nom pour qu'il aille voir cette personne. C'est ce que fait Alexis. Et Alexis s'en retourne. Il dit à la mère de Mathieu que le médecin va venir, qu'il est en consultation. Mathieu, dans son lit, s'est endormi. 1 heure plus tard, on sonne à la porte de l'appartement. C'est elle qui l'a ouvert. Bonjour madame, je suis le médecin Morier. C'est vous qui m'avez demandé? Elle lui dit, oui docteur, je voulais bien entrer. Il entre. Elle ferme la porte. Le médecin est un homme grand, mince, cheveux châtains, clairs, yeux bleus profonds. Il a un visage très sympathique et habillé d'un costume gris. Elle lui dit, je veux vous mener au malade. Elle le mène à la chambre de Mathieu. Mathieu dort. Le médecin se penche sur lui et pour le réveiller, il fait des petites tapes sur le bras. Mathieu se réveille, soupire et voit penché sur lui le médecin. Bonjour, je suis médecin. Je veux vous ausculter. Mathieu lui dit faiblement, j'ai le choléra. Le médecin lui dit, je ne pense pas. Vous avez mal au ventre? Non. Et il ausculte. Une fois que la chose est faite, il lui dit, ce n'est rien, juste une petite fatigue du repos, beaucoup de bouillie à boire, manger et rester au frais. Voilà.
Puis le médecin et la mère de Mathieu sortent de la chambre. Elle lui demande, alors docteur, il lui dit, faudra bien le surveiller. Il a de la fièvre, lui donner à boire et le laver à l'eau tiède. Surtout qu'il ne se déshydrate pas. Et bien faire bouillir l'eau. Pour le moment, je ne crois pas qu'il ait la maladie. Mais on ne sait jamais. Faudra le surveiller. Je vais vous faire une ordonnance, des comprimés contre la fièvre, l'infection et puis quelques fortifiants. Après, nous verrons. Il est bien maigre. On peut écrire où ? Elle le mène au salon. Entrez. Asseyez-vous. Il s'assoit sur une table. À une table. Une fois qu'il a écrit l'ordonnance, il la lui donne. Tenez. Surtout qu'il ne sorte pas et voie le moins de personnes possible. Il est très faible, il pourrait prendre s'il ne l'a pas déjà la maladie. Voilà. Merci docteur. Je viendrai dans une semaine. Au revoir madame. Au revoir, docteur. Alexis, qui est resté à la cuisine, une fois que le médecin est parti, va vers la mère. Elle est dans le couloir. Il lui demande, alors, elle lui dit, il ne pense pas que ce soit la maladie, mais il faudra bien le surveiller et lui donner beaucoup d'eau bouillie à boire. Le laver. Il a aussi fait une ordonnance. Il lui dit, j'irai chercher les médicaments. Merci. Je vais être obligé d'arrêter de travailler quelque temps pour le soigner. Et il lui dit, surtout pas, si vous arrêtez, ils vont vous mettre à la porte, on a besoin de votre salaire. Nous, nous débrouillerons. Je vous le relayerai. Merci. Elle sait ce qu'ils font. Elle va travailler le matin. Elle tient entre de ses cours, fait le garde malade. Et lorsqu'il n'est pas là, c'est son père qui le fait. L'après-midi, la mère revient de son travail à 14h. C'est elle qui s'occupe de son fils. Ce qui fait que Mathieu est presque, a presque toujours quelqu'un près de lui. Il a toujours de la fièvre, très là. Il ne peut pas avoir de conversation. On le laisse allongé dans son lit, les volets fermés pour garder un peu de fraîcheur, parce qu'il fait encore très chaud et lourd. On le réveille souvent pour qu'il puisse boire. Il est lavé à cause de la chaleur deux fois par jour. Il se nourrit doucement de bouillie bien épaisse. Lorsqu'Alexis le garde, il reste assis près du lit, lui tend la main. Son affection pour son ami grandit, parce qu'il est malade et innocent. Il est à sa merci et n'en profite pas. La maigreur de son visage le rend plus touchant et beau. Ses cheveux rouquins, dans la demi-obscurité, sont plus profonds. Elsie est fière et heureuse de soigner son ami. Il lui donne à boire souvent, il lui donne à manger et ses médicaments. Et le lave, parce qu'il faut bien le laver, alors il faut le réveiller le sortirent du lit et le menaient pas à pas dans la salle d'eau. Là, il lui enlevait son pyjama. Alexis fait tout pour ne pas voir la nudité de son ami et ne pas y penser. Il la voit tout de même et ça le gêne. Parce qu'après, il y pense. Ça le trouble malgré lui. Il en a honte et se dit qu'il est un salaud. Un pervers, un dégueulasse, qui profite de la faiblesse de son ami à cause de ses fantasmes. Il fantasme sur lui, ce n'est pas bien. Parce que lui ne peut pas se défendre, il est innocent. Il le met sous la douche et il lui passe le jet. Le savonne. Là aussi, pour passer le savon, il faut le toucher. Toucher tout le corps. C'est très gênant, toucher ce corps sans défense et innocent. Mathieu est très maigre, mais son cœur est resté gracieux. Puis il le sèche et le remet au lit. Pendant l'opération, il ne se parle pas. Mathieu est du moment où il peut parler, mais peu. Il demande des nouvelles du lycée, de la rue. Petit à petit se rétablit, prend des forces, a moins sommeil. Le médecin dit à la mère, avant de partir, après l'avoir ausculté, ce n'est pas le choléra, mais une grande fatigue. Grande fatigue que les jeunes adolescents ont, sont des faiblesses de temps en temps. La transformation du corps les fatigue. Pendant la maladie de Mathieu, un jour Alexis, qu'il était libre, est retourné voir la maison où est entré Olivier. Il a refait le chemin. Il a bien retrouvé les lieux où ils sont passés. Les rues lugubres, les gens louches. Puis une fois, il s'est fait aborder par une personne. Ils disent qu'ils lui offriront des tas de choses, des putes et autres, des enfants en haillon, lui souriaient. Puis il a retrouvé les rails et les a suivis. Il a eu peur sur le parcours. Il y avait des SDF qui campaient dans des décharges. On le regardait d'un drôle d'air. Il se disait que si je me fais attaquer, me fais prendre, personne ne pourra me défendre. Ils peuvent même me couper un morceau et me manger. D'ailleurs, certains faisaient cuire dans leur chaudron des choses étranges qui avaient une drôle d'odeur. À l'été, en passant, en vitesse, à revoir une jambe qui dépassait du chaudron. Des enfants, des femmes de tout âge en guenilles, le regard mauvais. Les enfants étaient à moitié nus, maigres et très sales. Eux aussi avaient le regard mauvais. Les cheveux noirs en broussailles. L'œil dur. Puis Alice s'est retrouvée seule dans la campagne. Avec le chemin était entre deux talus. Il a revu la maison. De jour, elle a l'air plus lugubre, sombre, mais elle n'a pas l'air abandonnée. Il voit que les volets sont fermés, pas de bruit. Instinctivement, il va pousser le portail. N'était pas fermé et se retrouve dans la cour. Il s'avance vers la maison. Il y a quelque chose d'étrange et de lugubre. Monte le perron, s'approche de la porte d'entrée. Il met la main sur la poignée de la porte. Elle s'est ouverte. Il sursaute. Apparaît un vieil homme, grand, maigre, très maigre. Les cheveux longs et une barbe noire. Les cheveux et la barbe sont en broussaille. L'homme a le visage osseux et le regard mauvais. Il est habillé d'un vieux manteau qui était vert bouteille, long et sale, et d'un pantalon gris et de grosses chaussures brodequins. Elle s'apprête à se retirer. L'homme le tient au bras. De ses mains, longs et osseux, il demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Haïti lui dit « Non, je m'en vais. » L'homme lui dit « Où vas-tu ? Tu oublies, c'est ça ? Tu devrais aller où ?» Et il lui dit « Je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Lâchez-moi. Je passe. » Tu passais. Il me dit, non, tu vas attendre les autres. Et s'il lui dit, les autres? Quels autres? On est où ici? Il me dit, dans la maison. Allez, entre. S'il lui dit, non, il n'y a personne. Et s'il demande, ils sont allés où? L'homme lui dit, tu demandes des tas de choses. Mais ne t'en fais pas. Fais pas d'histoire et viens. Alice recule. L'homme dit, ne crains rien. On veut pas te faire de mal, mon petit. Allez, viens. Elle ici sont un danger. Ils sont que si entre, il ne pourra plus sortir. Alors d'un geste brusque, il se dégage et se met à courir de toutes ses forces. L'homme lui court après, mais il ne peut le rattraper. Alicie court plus vite que lui et il sort de la cour. En direction de Paris. Il court, 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 court. Il ne se souvient plus. Le trou noir. Il reprend ses sens et dans son lit. Il se dit qu'il a dû rêver, mais il n'ose pas retourner à la maison parce que il ne sait pas s'il a vraiment rêvé. Un jour, Mathieu lui demande « Et Olivier ?» Elle s'est dit « Il a dû se faire prendre, savoir ce qu'ils lui ont fait. Vous, vous le savez, parce que vous connaissez, il m'a mis et l'élu. » Mathieu se rétablit, prend des forces, reste éveillé. Se lave seul. Ne parle pas du moment où il a été lavé par les autres et Alexis. Ça le gêne. Et un matin, il décide c'est de rester debout après son bain. 15 jours plus tard, il retourne au lycée. Un peu plus fort, mais encore pâle et faible. Les jours passent, la vie reprend petit à petit. La mère d'Alexis est toujours en prison et personne ne s'occupe de son dossier. Comme beaucoup d'épidémies, le choléra disparaît ou va s'endormir dans un coin isolé pour se réveiller plus tard. Il y a de moins en moins de gens contaminés, de morts. Les oiseaux se remettent à voler. Les chiens, les rats font leur apparition. Il fait moins chaud, le ciel est moins gris. On se sent un peu mieux. Petit à petit, la vie reprend son cours. La nuit, la journée, les camions des soldats ramassent de moins en moins de morts et petit à petit, on ne les voit plus. Les gens qui étaient partis se réfugier à la campagne reviennent petit à petit dans les villes. La vie reprend. Les magasins, les terrasses de café retrouvent leur clientèle. Le choléra est fini. Ouf. Malgré tout, comme toute catastrophe, il y a le côté positif de la chose. Moins de chômeurs, des immeubles qui se sont vidés plus vite et qui peuvent être rénovés plus rapidement. Ça a donné des vacances à ceux qui sont partis. Ça a remis de l'ordre dans les villes. Plus de manifestations, d'émeutes. De casse. Ça a permis à l'État de reprendre sont partis à l'armée de montrer qu'elle était là. Ça a donné aux médecins, aux pharmaciens, etc. plus de travail.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.